J'aimerais lire avec vous, si vous voulez bien, dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 2e. L'épître de Paul aux Galates, chapitre 2. Je vois de la jeunesse, c'est formidable ça, la jeunesse. Hein? Surtout, ne gaspillez pas votre vie, jeunes filles et jeunes gens. Je dis bien, ne gaspillez pas votre vie. Une missionnaire, Gladys Holloway, disait quand elle est allée en Chine, « Notre vie est comme une pièce d'argent, on ne la dépense qu'une fois. » Pour le bien ou pour le mal, reste à savoir pourquoi. Alors chapitre 2 des Galates, le verset 8. « Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Amen. » C'est pas trop long ? Ça va aller, hein ? Alors je reprends ce texte dans une version plus ancienne qui s'appelle Osterwald ou dans certaines autres versions. Il est dit ceci. « Celui qui a agi efficacement en Pierre pour en faire l'apôtre des circoncis a aussi agi efficacement en moi pour faire de moi l'apôtre des gentils et m'a rendu ainsi efficace. » J'aimerais donc parler de ce mot « être efficace ». Être efficace, c'est produire l'effet qu'on attend. Qu'est-ce que j'attends d'un couteau ? Qu'il coupe bien, qu'il tranche bien. C'est pour ça que quand vous allez chez le boucher, hein, avant de servir chaque client, il affûte son couteau. Jésus nous le rappelle au travers d'un fait. Il a faim, il veut manger des figues, il y a des feuilles, mais il n'y a pas de figues. Que fait-il ? Il séchera à la parole de Jésus. Quand nous nous convertissons, le Seigneur nous a libérés de tous nos péchés passés. Il nous a délivrés de toutes nos chaînes. Il a fait de nous de nouvelles créatures. Mais mon témoignage, ce n'est pas de dire « je ne pêche plus, je ne vole plus, je ne sors plus, je ne mens plus, je ne cours plus après le sexe opposé ». C'est pas ça. Là, nous sommes semblables à un arbre. Mais nous sommes appelés à porter du fruit. Il y a une différence. C'est plus je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela, mais qu'est-ce que le Seigneur fait avec moi et au travers de moi ? C'est là la réelle et bonne question. Dieu nous a sauvés afin que nous ayons la vie, et la vie en abondance. C'est plus je ne fais plus, ça ce sont des restrictions, mais qu'est-ce que je fais maintenant avec le Seigneur ? Alors, j'aimerais, dans ces instants qui nous sont donnés, dire en 5 points comment le Seigneur peut agir efficacement en nous pour nous rendre efficaces. Le premier point que j'aimerais souligner est celui-ci. Faudrait lire Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 18. Et puis d'autres passages après, mais je m'en tiendrai à celui-ci. Comment peut-il agir efficacement en moi ? Par le Saint-Esprit. C'est la première chose qui peut nous permettre d'être efficace pour Dieu, être rempli du Saint-Esprit. Jésus n'a commencé son ministère qu'une fois que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, au moment du baptême. Avant, il n'a pas commencé. Bien sûr, il est né par l'Esprit, comme nous naissons spirituellement par la vie de l'Esprit. Mais il y a une différence entre naître par l'Esprit et être baptisé, rempli du Saint-Esprit. Comme Jésus le fait, et c'est à partir de ce moment-là que le Saint-Esprit peut agir efficacement dans nos vies, et puis nous rendre efficaces également. Dans le livre de Job, au chapitre 26 et au verset 13, je vais vous lire ce verset, ne le cherchez pas. Voilà ce que dit cet homme de Dieu, cet homme que l'adversaire a beaucoup éprouvé, mais qui a fait la joie de Dieu. Au chapitre 26 et au verset 13, il nous est dit, son souffle donne au ciel la sérénité, sa main transperce le serpent fuyard. Son souffle dans nos versions second, est écrit avec un S minuscule. D'ailleurs, le mot esprit, par le traducteur second, est aussi parfois écrit en E minuscule, alors que toutes les autres traductions l'écrivent avec un S majuscule et un E majuscule. Pourquoi ? Parce que c'est le souffle de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Son souffle donne au ciel la sérénité. Vous savez, quand c'est noir, le ciel est noir, les nuages s'amoncellent, etc. On a connu cela dans le midi, où nous avons travaillé pendant quelque temps. Il suffit que le souffle passe, le mistral, la tramontane, et tous les nuages sont chassés. C'est la même chose avec l'Esprit de Dieu. Quand notre ciel semble d'airain, quand notre mémoire, notre esprit semble assombri, il suffit que nous puissions nous tenir dans la présence du Saint-Esprit. Vivre par l'Esprit et le ciel est rendu serein. Et la Bible nous dit, son bras transperce le serpent fuyard. Il s'agit là, bien sûr, de Jésus et de ce qu'il a vaincu. Le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, nous amènera systématiquement à connaître la pensée de Dieu et à dire les paroles de Dieu. Je pense à cette sœur, nous étions dans la région parisienne à l'époque, à cette brave dame chrétienne d'origine polonaise qui était là le dimanche matin, elle était heureuse, Dieu lui avait fait du bien, elle repartait chez elle à midi, il faut dire qu'elle habitait en banlieue, donc il fallait qu'elle prenne plusieurs moyens de transport, et exceptionnellement, le Seigneur lui avait fait tellement de bien le dimanche matin que l'après-midi, elle décide de revenir à l'église. Elle revient, elle est là dans le métro, alors le dimanche, le métro encore ça va bien, hein, on peut monter tranquillement, dans la semaine c'est autre chose. Et elle monte dans le métro, et là, elle pensait à la réunion, et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu lui dit, va parler à cette femme. Cette femme se trouvait de l'autre côté de la voiture, dans laquelle elle se trouvait, dans le métro. Qu'est-ce qu'elle va aller lui dire, qu'est-ce qu'elle va faire? Et puis l'Esprit de Dieu lui dit, va parler à cette femme. Alors elle se lève, elle s'approche, elle ne savait pas trop comment l'aborder, elle lui dit « Madame, où allez-vous ?» Et cette dame de lui répondre « Je cherche Dieu. » Vous savez ce qu'elle lui a dit ?« Suivez-moi. » Et elle l'a amenée où ? À l'église, où elle a entendu le témoignage de Dieu, où Dieu l'a bénie. C'était une femme qui était colombienne, Francina, je me souviens, et petite, cheveux longs, très brune. Elle était chirurgienne, elle avait fait elle venait de Colombie. Elle était allée faire un stage à Londres, et puis à Paris-Villejuif, parce qu'elle était spécialiste des opérations de la face. Elle nous a dit ceci, « Je n'ai rien appris dans mon métier que je ne sache déjà, mais je sais pourquoi je suis venu. » Elle a donné son cœur au Seigneur, elle a mangé avec nous, et Dieu l'a baptisé du Saint-Esprit. Tout ça pourquoi ? Parce qu'une femme remplie de l'Esprit de Dieu a été sensible à l'Esprit de Dieu pour aller lui témoigner. Voilà comment être efficace. Vous avez remarqué que il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de téléphone, on ne distribuait pas des prospectus, il n'y avait rien de tout cela du temps des apôtres. Et pourtant, ils ont répandu l'évangile dans le monde entier. Pourquoi ? Parce qu'ils allaient, remplis d'Esprit de Dieu, et ils disaient aux gens ce que l'Esprit de Dieu leur disait de dire. C'est là quelque chose que nous ne pensons pas toujours, nous ne réfléchissons pas, mais peu importe, je voudrais le dire, c'est l'Esprit de Dieu. Et je l'ai mis en premier. Dans certaines écoles bibliques, on apprend à connaître Dieu, ce qui est normal, Jésus, ce qui est normal, l'homme, le péché et le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui, pour moi, ne correspond pas. Je suis très opposé à cela. C'est Dieu, Jésus, Fils de Dieu, et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas été créé parce que l'homme est tombé dans le péché. Le Saint-Esprit a créé lui-même cette terre où nous habitons. sommes d'accord? Il est Dieu. C'est lui qui passe avant toute chose, le Saint-Esprit. Et Dieu nous fait l'honneur d'envoyer son esprit en nous. Pour plusieurs raisons, il y en a au moins 7. C'est pas mon but ce matin, hein? Mais pour nous amener justement à réfléchir que s'il contrôle notre vie, s'il dirige notre vie, alors il pourra se servir de nous efficacement. Il va agir dans notre cœur parce que nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos cœurs, pour ressembler à Jésus. Mais pour se servir de nous également, c'est tellement, tellement important. Une femme, une jeune fille, à l'époque, s'est convertie. Il faut dire qu'elle était de confession anglicane. Elle voulait servir Dieu, elle voulait que sa vie soit efficace. Elle est allée à Hong Kong, du temps où Hong Kong était sous protectorat anglais. Et là, elle arrive, ses papiers n'étant pas encore tout à fait à jour, on lui demande de rester à la disposition des autorités et elle va se réfugier dans une pension tenue par un couple de missionnaires pentecôtistes. Ces pentecôtistes, on les trouve partout. Et elle découvre là quelque chose qu'elle ignorait dans le domaine de la foi. La vie du Saint-Esprit. Elle fait cette expérience nouvelle. Et quand elle est baptisée du Saint-Esprit, elle dit à Dieu, « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Et Dieu lui a dit, « Loue-moi un quart d'heure par jour en esprit. » C'est pas beaucoup, mais il faut le faire. Je dis pas un quart d'heure de prière, tu vas commencer par A jusqu'à Z. Non, loue le Seigneur en esprit un quart d'heure par jour. C'est comme ça qu'elle a commencé. Après, elle a fait plus d'un quart d'heure, bien sûr. Cette jeune fille, je précise, blonde, c'est pas parce qu'on préfère les blondes aux brunes, hein, pas du tout. Moi, j'ai des filles blondes et des filles brunes, comme ça, il y en a pour tout. Mais c'est ce que je veux dire. À Hong Kong, où tout le monde est brun, une blonde, toute seule, au milieu des quartiers malfamés, parmi les prostituées, les bandes triviales, les drogués, les bandits, trafiquants d'opium, toute seule, elle a amené des dizaines, j'ai bien dit, des dizaines de milliers de personnes à Jésus. Cette personne est toujours en vie. Elle est en Angleterre. Il y avait quelque chose qui était en elle, qui lui donnait une compassion pour ces gens-là. Les personnes venaient, tombaient à genoux dans la rue et disaient « Aidez-nous à en sortir !» Dieu agissait en elle pour lui donner la compassion, l'amour pour les âmes perdues. Mais également l'autorité par la puissance du Saint-Esprit pour que les démons soient chassés, que les malades soient guéris. Car la Bible nous dit que Jésus chassait les démons par le Saint-Esprit. Nous ne devons pas l'oublier. Le Saint-Esprit va agir efficacement en nous. Si vous saviez comment il veut nous parler, je pourrais multiplier les exemples, ils seraient tellement nombreux à citer. Nous en avons vécu beaucoup avec Colette. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui connaît les besoins et qui cherche un instrument, quelqu'un de disponible qu'il pourra conduire et diriger afin que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir. Premier moyen que Dieu nous a donné, être rempli du Saint-Esprit. Un jour, j'ai vécu quelque chose un peu de négatif. Je vais le citer. Enfin, négatif, si on veut. Nous avions un couple que nous connaissions bien, et un dimanche matin, le Seigneur me dit, en parlant de cet homme, il m'a volé. Alors je comprends pas pourquoi l'Esprit de Dieu me mettait cette pensée que cet homme avait volé Dieu. Est-ce qu'on peut voler Dieu? C'est facile de dire non, attention, vous allez être repris, vous allez comprendre pourquoi. Sa femme attendait un bébé. Il y avait des difficultés dans son état de grossesse. Elle était obligée de tenir le lit. Et le dimanche matin, je vois ce frère arriver. J'avais envie de le lui dire. Le culte est passé. Il est parti. J'ai été lâche. Je ne lui ai rien dit. Jamais il ne revenait l'après-midi. Il revient cet après-midi-là. Alors j'ai dit, c'est bon, je vais lui parler. L'après-midi passe, je ne lui parle pas. Nous l'invitons à prendre le café. Je dis peut-être que là, je vais lui parler. Nous avons pris le café, mais je ne lui ai pas parlé. pour ça que je dis que c'était négatif. Vous voyez la lâcheté qui était en moi. Et puis je l'accompagne au portail pour qu'il récupère sa voiture. Et l'arrivé devant le portail, il se tourne vers moi et me dit, « Monsieur Galifou, j'ai volé Dieu. » C'est lui qui me l'a dit. Je dis, « Oui, je sais. » Alors on est rentré à nouveau dans la maison, et puis je lui ai expliqué ce que Dieu m'avait dit. Et comment avait-il volé Dieu ? Lui était militaire, il travaillait, son épouse travaillait aussi, et comme elle ne pouvait pas venir, elle lui donnait son offrande personnelle à elle pour remettre au Seigneur. Et lui, il gardait cette offrande et il l'utilisait à d'autres fins. Le Saint-Esprit avait averti. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Que Dieu soit béni. Deuxième moyen par lequel le Seigneur peut agir efficacement en nous. Eh bien, vous connaissez ce texte dans Hébreux 4:12. La parole de Dieu est une arme tranchante à double tranchant, tellement efficace. La Bible. C'est pas parce que nous prenons de l'âge et que nous sommes, que nous sommes repus de la parole de Dieu. La parole, c'est un trésor dans lequel et dans laquelle je pioche des choses nouvelles comme anciennes. La parole de Dieu, c'est un livre qui nous sert de nourriture spirituelle. C'est le livre de Dieu. C'est la lettre d'amour de Dieu. Certains finissent par dire, « Oh, mais moi, je la connais, la parole. » Tu connais rien du tout, parce que si tu la connaissais, tu n'aurais pas un tel langage. La parole de Dieu, mais Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a dans la parole ce qu'on appelle le terme logos. Je dois avoir une connaissance de toute la parole. Mais il y a aussi la parole rhéma. Et cette parole rhéma, c'est celle qui me sert lorsque je suis dans un besoin particulier où Dieu a besoin de me parler, où Dieu a besoin de se révéler à moi. Ah, la parole de Dieu. Je pense à un personnage qui était de la région. Et je vais le voir à l'hôpital de Montauban. Il avait un ulcère à l'estomac dont il devait être opéré. Et sa femme, qui commençait à venir aux réunions, lui avait dit, « Eh bien, lis la parole. » Et il ouvre la parole de Dieu, c'était dans l'Ancien Testament, où il est dit, « J'ôterai le mal du milieu de toi. » Voilà ce qu'il lit. Mais il a dit, « Mais c'est ça, l'ulcère à l'estomac, c'est au milieu. Eh bien, tu l'enlèves. » Et Dieu l'a guéri. Et Dieu l'a guéri. C'était pour lui une parole rhéma. La parole de Dieu, elle est tellement extraordinaire. Dans une ville où nous avons servi le Seigneur, un samedi, on m'appelle. Nous avions un couple qui avait deux enfants. D'ailleurs, nous avons gardé parfois leurs enfants avec Colette. Et ce couple construisait une maison. Ils étaient dans un immeuble. C'est bien. Ils peuvent avoir leur maison, c'est bien. Le problème, c'est qu'ils l'ont construit eux-mêmes au détriment de leurs vacances, des réunions, j'ai bien dit, des réunions, au détriment de leur intimité. Et quand la maison est construite, ils aménagent la même semaine, elle décide de quitter son mari pour aller avec un nouveau voisin. Téléphone, samedi matin, je vais les voir. Alors je leur parle comme un papa. Ah, rien à faire. Je parle comme le pasteur. Rien à faire. Je leur dis, voulez-vous que je prie ? Oh, surtout pas ! Voilà textuellement leur réponse. Je suis parti, j'étais triste. Pensez à eux. Et d'ailleurs, elle avait préparé sa valise pour partir le dimanche matin. Elle m'avait montré la valise. Le dimanche, au culte, aucun des deux n'était présent. Et le dimanche, entre midi et 15h, où j'avais la réunion d'évangélisation, je me tenais dans la chambre, je priais, je préparais la réunion. Et j'avais préparé mon message d'évangélisation. Et en regardant mes parallèles, c'est-à-dire les parallèles qui sont au milieu de votre Bible, si vous avez une Bible à parallèle, je tombe sur une parallèle, je regarde, et je tombe sur dans cette parallèle, Jean, au chapitre 6, ne le cherchez pas, où il est dit ceci, au verset 39. « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné. » Et devant cette phrase, moi j'ai ajouté, et je me souviens quand je l'ai ajouté, c'était un soir, dans le lit, pendant que je lisais, « Que ce soit une prière pour tous ceux qui s'écarteraient. » J'ai marqué ça dans la marge de ma Bible. Je me souviens, j'étais à genoux, bien nourri, quand j'ai lu cela. Je me suis levé, j'ai pris ma Bible, c'est-à-dire quel genre de pasteur. J'ai dit, Seigneur, tu sais lire. Bien sûr qu'il sait lire. Et regarde ce que tu as fait marquer. Et regarde ce que tu m'as fait marquer à moi. Je te rappelle cela pour Monique et Christian. À un quart d'heure près, 14h15, je reçois un coup de fil. Monique m'appelle. Monsieur Galifot, oui. J'ai décidé de ne plus partir. Venez, priez avec nous. Et ils sont toujours ensemble. Ils ont de la famille dans l'église de Sainte-Agne. Que Dieu soit béni, c'est lui qui nous révèle par sa parole. Parce que sa parole me donne la foi. Elle me sert de levier, d'appui. Et je peux proclamer ce que Dieu dit. Comme Jésus a répondu à Satan, il est écrit. Vous comprenez que la parole de Dieu, c'est pas quelque chose que je lis comme un livre, que je relirai même deuxième fois. C'est de la nourriture. Elle augmente ma foi. Elle me donne autorité. Elle me rend vainqueur sur l'ennemi. La parole, elle agit efficacement en moi. Puis vous savez, la parole, c'est un miroir. Je sais pas comment nous nous regardons dans un miroir. Le temps que nous prenons devant un miroir, avec 5 filles à la maison, je sais ce que c'était. Mais le miroir, il nous reflète exactement ce que nous sommes. Et parfois, on se croit bien, on se croit meilleur. On voit la paille dans l'œil des autres. Vous connaissez la suite ? C'est donc que vous avez lu la parole. Hein ? Et on ne voit pas toujours la poutre qui est dans notre œil. Mais la parole, elle se charge de nous travailler. Mais attention, attention. Et puis, l'Esprit de Dieu est la parole de Dieu, parce que la parole, c'est l'épée de l'Esprit. C'est l'Esprit qui a inspiré la parole. Et c'est l'Esprit qui sait s'en servir, que Dieu soit béni. Donc, deux moyens pour agir efficacement en nous et nous rendre efficaces. L'Esprit, la parole. Le troisième moyen par lequel Dieu agit efficacement en nous, c'est dans l'Épître de Jacques, chapitre 5 et verset 16 que vous connaissez. La prière du juste. Eh oui. Et il nous est parlé de cela en fonction de Élie, le prophète, qui a prié avec foi. Et nous oublions combien la prière est importante. Souvent, nous disons que le baromètre d'une église, c'est la réunion de... Quelqu'un a dit, je ne me souviens plus quel personnage a dit ceci, le monde, la foule, dans l'église le dimanche matin, c'est la popularité du pasteur. Que Dieu soit béni. Mais la foule, dans une réunion de prière, c'est la popularité de Dieu. Alors, que Dieu soit béni. Merci pour votre affection pour le couple Fontaine. Mais que Dieu soit béni quand vous viendrez à la réunion de prière pour la popularité de Dieu. Nous avons connu, dans certaines villes, nous avons travaillé des réunions de prière extraordinaires. Moi, je me souviens, à Montauban, d'un culte, et j'étais enfant, qui a commencé à 9h30, qui s'est terminé à 15h, juste pour reprendre la réunion d'évangélisation. Tu te rappelles pas? Ça, c'était des moments bénis par l'Esprit Saint de Dieu. Des visitations qu'on ne peut pas oublier. D'ailleurs, une de ces deux réunions, parce que j'en ai connu deux, c'est là que j'ai reçu l'appel de Dieu pour le servir. N'oublions jamais, dans les moments de prière, tout ce que Dieu peut accomplir, faire, la prière. La prière qui doit être persévérante. C'est pas une petite prière comme ça aujourd'hui, ou alors une prière où on commence à prier pour tout le monde, etc. Et quand à la fin de la prière on s'arrête, on sait plus pourquoi on a prié. Non, c'est parfois un combat la prière. Et nous devons en tenir compte. Nous avons, il y a un frère et une sœur qui sont de Chambéry. Je sais pas s'ils se souviennent. À un moment donné, j'ai reçu un appel téléphonique d'une sœur qui était voisine d'une autre chrétienne, laquelle avait une grande fille, trois garçons. Et l'un de ces garçons, c'était au moment de vacances, ils étaient ensemble avec des copains, ils jouaient, ils étaient sur des murs, il y avait des champs, etc. Et il y en a un qui saute. Et quand il a sauté, il n'a pas fait attention, il y avait du fil de fer pour le béton armé, fil de fer torsadé, et il s'est empalé. C'est-à-dire, il a pris le fer dans l'aine ici qui est ressorti sur le côté. Il était empalé comme cela. C'est son frère qui l'a sorti comme cela. Il a tout de suite fait dire à la voisine chrétienne, parce que sa maman n'était pas là, qu'elle appelle le pasteur, donc elle m'a appelé, j'ai appelé des frères et des sœurs, tandis que les pompiers arrivaient, et nous avons fait une chaîne de prières. Quand les pompiers sont arrivés, ils ont dit, ils ont téléphoné à l'hôpital, ils ont dit, même si on arrive à temps, il ne pourra pas vivre. Mais nous prions. Il faut voir ce garçon, il mesure plus d'1m90. Dieu a étendu sa main. La prière de l'Église. Ça, c'était à Chambéry. Nous avons une grand-mère qui était dans notre église. Son gendre, qui est médecin, sa fille, qui est infirmière, avait un petit garçon d'une dizaine d'années. Il descend du car de ramassage scolaire. Il traverse, comme beaucoup d'enfants, parfois un instant d'inattention. C'était en campagne et l'enfant est pris par une voiture. Il a été projeté je ne sais plus combien. Les pompiers sont arrivés. La maman ne travaillait pas ce jour-là. Ils ont chargé l'enfant. Et l'enfant a plus que doublé de volume dans l'ambulance des pompiers. La maman a dit aux pompiers, arrêtez-vous à l'église évangélique. Ils ont dit, non. Je vous demande de vous arrêter à l'église évangélique. Et ils ne voulaient pas. Elle savait qu'il faisait une semaine de prière tous les matins. L'enfant, qui n'avait pas perdu connaissance, a dit, faites ce que maman vous dit. Elle descend de l'ambulance des pompiers. Elle dit au pasteur, priez pour mon fils, il vient d'avoir un accident. Elle remonte, partie. Entre le moment où elle s'est arrêtée, le moment où ils sont arrivés à l'hôpital, l'enfant a désenflé. Ils l'ont gardé en observation. Rien. Dieu avait posé sa main. La prière du juste. La prière de l'Église. Nous avons vécu cela pour plusieurs de nos petits-enfants. On en a une. Elle faisait de l'acrobatie sur un portique. Lauriane. Et puis tout d'un coup, à plusieurs mètres de hauteur, ses mains lui ont lâché. Elle est tombée la tête, la première, sur le ciment. Transportée à l'hôpital par les pompiers. Notre fille téléphone. Je faisais une mission, je me souviens. Téléphone. Ah, en pleine mission. Je me tiens devant Dieu. Et Dieu me dit, ne t'inquiète pas. Ça me suffisait. Je reprends le téléphone. J'appelle Florence. Ne t'inquiète pas. Elle n'est même pas restée une journée en observation. C'était fini. Aucun déséquilibre dans sa tête, absolument rien. Elle a une situation très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la prière de la mamie. Parce que Florence n'était pas encore convertie. Hein ? La prière du papy, bien sûr. La prière des grands-parents. La prière, tout un ensemble. Et quand on prie, il se passe quelque chose. Quand on prie, la main de Dieu est à l'œuvre. Quand on prie, la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. La prière. Et c'est pour ça que parfois Dieu ne répond pas tout de suite. Pour nous apprendre à persévérer dans la prière. Que Dieu soit béni. La prière. Que de victoire par la prière. Savez-vous que Wesley pouvait compter sur 20 000 groupes de prière. 20 000 groupes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, mais c'est tellement important de prier. Quand Nous faisons des camps. Nous faisions des camps. Nous avions toujours un groupe qui priait pour nous, pour les camps. Et Dieu agissait. La prière. Rien ne se fait sans la prière. On peut faire des concerts, on peut projeter des films, on peut faire tout ce que l'on veut pour évangéliser, et il faut bénéficier de toutes ces choses-là, mais rien ne remplacera la prière. Quatrième moyen qui fait que Dieu pourra agir efficacement, si je vous dis Joël chapitre 2, à quoi pensez-vous ? Ah, je savais que je vous aurais. Eh bien, c'est vrai, il y a le Saint-Esprit répandu dans les derniers jours, et vous avez raison, et nous sommes dans les derniers jours. Mais il y a un autre passage qui dit, dans justement, Joël, chapitre 2, verset 17, « Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs. » Et vous savez ce que dira le Seigneur dans plusieurs psaumes ? Dieu entend la voix de nos larmes. On peut rire aux larmes. On peut avoir des larmes hypocrites. Comme un pasteur que nous avons rencontré, que nous avons connu, qui est maintenant avec le Seigneur, quand il était enfant, dans les enterrements où il était, c'était au Sri Lanka, il fallait pleurer. C'était comme ça. Et il y avait un membre de sa famille qui était mort et qui ne l'aimait pas. Alors il n'avait pas envie de pleurer. Alors il avait mis un oignon dans sa poche, et le mouchoir par-dessus. Et il prenait le mouchoir et le sortait, comme ça, celui faisait venir les larmes. Je vous assure que c'est vrai. D'ailleurs, son fils est pasteur, il s'est converti avec nous. Fallait pleurer. Vous voyez, des larmes hypocrites, hein, il y a des larmes de toutes sortes. Mais Dieu entend la voix de nos larmes. Et dans la parole, il nous est dit, au psaume 126, « Celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. » Est-ce que nous sommes capables de pleurer pour les âmes perdues ? Le salut, l'évangélisation, c'est pas de la rigolade. C'est du sérieux. Et je ne suis pas prophète quand je dis ça, hein ? Imaginez-vous qu'en rentrant, vous appreniez une mauvaise nouvelle de quelqu'un que vous aimez, qui est là, entre la vie et la mort. Qu'est-ce que vous allez faire ? Non seulement prier, mais peut-être pleurer. Et Dieu entend la voix de vos larmes. Vous vous souvenez de cet homme Ézéchias ? Le prophète Ésaïe vient le voir. Et la prophétie qu'il doit lui annoncer, « Mets en ordre ta maison parce que tu vas mourir. » Et puis il s'en va. Ézéchias se tourne vers le mur, dit l'Écriture. Il prie et il se met à pleurer. Et tandis que Ésaïe était dans la cour du palais, l'Esprit de Dieu le ramène. Et Dieu lui dit, j'ai vu tes larmes. Et j'ai entendu tes prières. Et Dieu lui donne 15 ans de plus à vivre. J'ai vu tes larmes. Nos larmes. Vous savez comment s'est converti M. Yonggi Cho ? Qui a été le pasteur d'une des plus grandes églises dans ce monde, 750 000 membres dans son église. Alors qu'il était jeune homme, il était atteint de tuberculose. Et si aujourd'hui, on peut lutter contre la tuberculose, à l'époque, parce qu'il est plus âgé que moi, la tuberculose, on ne pouvait pas la vaincre comme cela. Il était bouddhiste. Et une dame américaine vient le voir, ayant appris ce qu'il avait, chrétienne. Elle laissait lui parler du Seigneur, lui était bouddhiste, il devient assez méchant, rude avec elle. Il la rembrouille. Elle tombe à genoux, elle pleure. Pour lui, coréen, qu'une américaine, une femme pleure pour lui, elle ne le connaissait pas, et il ne la connaissait pas, il est touché. Et il lui dit, dites-moi ce que vous voulez, je le ferai. Elle lui donne la Bible, elle lui dit, lisez cela, c'est tout. Elle dit, je le ferai. Elle est partie, il ne l'a plus jamais revue, cette femme. Mais Dieu a touché son cœur par la parole. Il s'est converti, et quel homme de Dieu, puisque j'ai eu l'occasion d'aller dans son église il y a quelques années de cela, nos larmes. nos larmes. Quand nous sommes capables de pleurer pour quelqu'un, ça prouve que vraiment on l'aime et on veut avoir la bénédiction sur la personne. Oui ou non? On le veut. Jésus a pleuré devant Jérusalem. Que de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses petits, et vous ne l'avez pas voulu. Il a pleuré de compassion sur cette ville. Le temps passe si vite et pressant, mais je pourrais vous raconter comment Colette a pleuré pour son papa. Il faut dire que depuis l'âge de 2 ans, son papa n'a plus vécu avec elle. Nous n'avions aucune relation. Dieu l'a libérée de mauvais sentiments qu'elle avait à son égard. Au bout d'un certain temps, après, il était un homme qui pour nous ne comptait pas. Jusqu'au jour où à Chambéry, Dieu lui a parlé dans un songe et elle a pleuré. Elle vous le raconterait bien mieux. Surtout qu'elle raconte dans un livre qu'elle a écrit. Et un jour, Dieu lui a montré son papa qui était parti dans l'éternité et qu'il lui disait « Merci d'avoir pleuré et prié pour moi ». Et ça, il ne pouvait pas le savoir parce que nous étions à Chambéry et lui était à Villeneuve-sur-Lot. Sans relation. J'ai passé sur un détail, hein, Colette. Les larmes! Les larmes pour les âmes que nous voulons voir sauvées. Je crois, je dis bien dans l'évangélisation, par tous les moyens, mais rien ne remplacera une église qui prie et qui pleure pour les âmes perdues. C'est pour ça que je vous dis, l'évangélisation, c'est pas de la rigolade, c'est pas des fêtes. C'est pas vrai, ça. C'est de l'illusion. C'est du mirage. Le salut d'une âme, c'est faire passer une personne de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Il y a 2 hommes qui m'ont marqué dans la vie. Je m'excuse de parler de ça, mais c'est ton papa, Pascal. Et ceux qui l'ont connu ici, qui restent là, savent combien c'était un homme de prière. Et je l'ai vu pleurer. Je l'ai vu pleurer. C'était pas un évangéliste. Pas du tout. C'était un bon berger, un bon prédicateur, un homme sensible à l'esprit. Et pourtant, c'est là que je me suis converti. C'est là que Colette s'est convertie. Et bien d'autres. Que Dieu nous aide. Il entend nos larmes. Et il les voit. C'est David qui disait, j'ai recueilli les larmes dans un récipient, une outre. Il entend la voix de nos larmes. Elles sont vraies. Si simplement l'Église pouvait comprendre que quand elle pleure pour les âmes perdues de sa région, c'est autant de bénédictions que Dieu va manifester. Et 5e moyen par lequel Dieu nous rend efficaces, et bien sûr, attention, hein, maintenant le frère Michael Fontaine et son épouse Laure ne vont pas mettre une table à l'entrée de l'église avec des torchons, des serviettes, etc. Non, non, ça c'est dans notre lieu secret. Personne ne le voit. Moi, je peux pleurer en voiture quand je pense à certaines choses. Je peux pleurer dans la maison. Ça peut nous arriver de pleurer aussi quand nous sommes réunis. Mais nos réunions ne sont pas des réunions de larmes. Mais est-ce que nous versons des larmes pour le salut des âmes ou des larmes de reconnaissance? Des larmes, je dirais, de joie. Seigneur, tu as eu compassion de moi. Il a eu pitié de moi. Il m'a préservé, il m'a protégé. Enfin, il y a tant de raisons. Les larmes ne sont pas un signe de faiblesse. Contrairement à ce que nous croyons. Avec votre pasteur, nous avons rencontré dans les rues de Toulouse, tu dois te souvenir, de cette fille dans la rue, origine République dominicaine, grande et forte. La première fois où nous l'avons rencontrée, c'était dur. Je comprends. Vous savez, moi, il y a bien longtemps que je pleure plus. T'es grande. Et tout d'un coup, parmi les gens qui étaient là, l'équipe, je dis toujours l'équipe, il y a une de nos sœurs espagnoles, elle est saisie par l'Esprit de Dieu et elle apporte un don spirituel. Cette grande personne, parce qu'elle est grande, hein, à peu près ta taille, à peu près, hein, et elle se met à fondre et à pleurer. Dieu venait de toucher son cœur. Et on ne la voit plus maintenant. Eh oui. Dieu est celui qui nous touche. Et les larmes, elles agissent efficacement en nous, mais elles nous rendent efficaces. Cinquième moyen, Ésaïe 58, il faudrait lire tout le chapitre 58. C'est quoi ? Bien, c'est le chapitre sur le jeûne et la prière. Jésus monte avec trois de ses disciples sur la montagne. C'est là qu'il y a la transfiguration. Et au moment où il redescend, il y a une foule et qui est rassemblée et il se passe quelque chose. Le papa d'un enfant tourmenté s'approche de Jésus en disant « Tes disciples n'ont pas pu le délivrer. » Son enfant était possédé. À la parole de Jésus, cet enfant est délivré et guéri. Et en aparté, les disciples demandent à Jésus « Pourquoi n'avons-nous pas pu le délivrer ?» Jésus lui répond ceci « Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. » C'est-à-dire un moment où il faut se tenir devant Dieu pour que Dieu nous révèle peut-être le nom, peut-être le pourquoi, peut-être, enfin un tas de choses comme cela. Et il nous donne pendant le jeûne et la prière une autorité qui s'accroît, qui grandit avec une foi et qui nous permet d'amener les gens à la délivrance. Elle ne sort que par le jeûne et la prière. Souvent, j'aurais aimé avoir une église de 365 membres, à la limite 366. Vous savez pourquoi ? Pour faire une année de jeûne et de prière, chacun aurait jeûné une journée. C'est pas beaucoup, vous en pensez. Moi, je jeûne une journée, le frère jeûne le lendemain, le frère le surlendemain. Toute une année de jeûne et de prière, ça n'aurait pas été formidable. Eh bien, je suis allé, c'était un séminaire à Nice, il y a des années, et je rencontre un frère qui venait des États-Unis, Dan Boll. Et il raconte qu'il avait pris une église en difficulté. Il y avait à peine 60, même pas 50, 60 personnes. Et là, ils ont résolu de faire un jeûne mensuel qu'il répétait 12 fois par an. En 2 ans et demi, son église est passée à 600 membres. Nous avons pris une église, enfin, nous avons pris, c'est pas nous qui avons choisi, hein. On nous a envoyé dans une église avec Colette. Je me souviens, avant de prendre cette église, je ne vous dis pas les soucis qu'il y avait, ça nous regarde pas. Mais, et à l'époque, j'étais dans le nord, j'arrive dans le sud. Je dis à Colette, je plains le gars qui va y aller, je voudrais pas être à sa place. Ça, c'est des choses qu'il faut jamais dire. Tu t'en souviendras, Michael, avec Laure. Et hop, on me demande d'aller là-bas. C'était au bord de l'éclatement. Avec beaucoup de soucis de construction et autre chose. Et j'ai établi une liste de jeûnes et de prières mensuelles. Chacun était libre, midi ou soir. Et ça s'est répété et nous l'avons fait pendant 1 an. 1 an. Moi-même, je jeûnais, ma femme jeûnait. On se tenait devant Dieu pendant 1 an. Jamais Dieu nous est témoin. Il y a eu une séparation, une division. Jamais une personne n'est partie de cette église. Dieu a consolidé, que Dieu soit béni. Il nous a aidés à terminer en 2 ans l'église qui y était. Et de là, il en est sorti plusieurs prédicateurs qui sont dans le ministère aujourd'hui. le jeûne et la prière. Dans les moments de jeûne et de prière, c'est un combat. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que vous croyez que Dieu est pour nous? Mais oui, il le dit. Non seulement Dieu est pour nous, Jésus est avec nous et le Saint-Esprit est en nous. Ce qui fait que je peux croire dans la victoire complète, totale du Seigneur Jésus. Voilà cinq moyens qui nous sont donnés là et qui nous permettent d'aller de l'avant. Je pense à un garçon que nous avons connu, qui était membre de notre église. Il est né en Afrique du Nord, il a vu des choses horribles tout enfant, il a vu des morts, etc. Et il était traumatisé. Il est venu en France, il avait appris les arts martiaux, il ne cherchait qu'à se battre. Il se plaisait quand il se battait. Il s'est marié avec une petite jeune fille qui à l'époque avait 17 ans et demi, Marie-Claire, les cheveux longs. Et quand il rentrait, il était invivable cet homme-là. Quand il rentrait, il l'a frappé. Quand je dis il l'a frappé, il l'a laissé KO par terre. Il l'a tiré par les cheveux. Il n'avait qu'une envie, c'était de la faire enfermer. Et lui, il voulait ouvrir quelque chose. Enfin, bon. Et un chrétien lui témoigne. Il vient à la réunion, côté droit. Enfin, à la droite du pasteur. Et là, pendant que le pasteur prêchait, lui, il se disait, si je pouvais monter, lui faire des prises. Mais l'Esprit de Dieu était là, et l'Église priait. Cet homme s'est converti. Il ne pouvait pas supporter et voir les enfants. Quand il s'est converti, la première chose qu'il a faite, il est allé devant les enfants dans la rue, pour les saluer, pour leur toucher la main, il était changé. Dieu lui a donné la grâce d'avoir deux enfants. Deux ou trois, deux, il semble. Transformé, bouleversé. Et un jour, c'est resté à cet homme suite à un accident. Il avait un coude qui était bloqué. Il ne pouvait pas le lever plus haut que ça et il ne pouvait pas l'étendre. Et une fois qu'il s'est converti avec d'autres frères, ils vont dans une ville où il y avait quelqu'un de passage qui était étranger. D'ailleurs, c'était exactement la belle-mère de Yoongi Cho. Donc, elle parlait coréen. Et il était là. Et les prédications se faisaient en coréen. Il ne comprenait rien, mais il y avait la présence de Dieu. Et à un moment donné, cette femme le regarde, et puis elle lui dit, alors il fait ça, elle fait signe que oui, et il dit, c'est-à-dire ne pas manger pendant 3 jours. Je l'ai pris. Il rentre chez lui. Il demande 3 jours de congé à son patron. Il se tient devant Dieu. Il jeûne et il prie. Son bras complètement guéri. Ce garçon nous a amené bien des âmes au Seigneur. Bien des âmes au Seigneur. Et d'ailleurs, par son travail, souvent, il était muté dans un endroit ou dans un autre. Partout où il allait, il amenait des âmes. Que Dieu soit béni. Dans le jeûne et la prière, que de victoire. D'ailleurs, si je me souviens bien, c'est là que toi aussi tu as été guéri. Colette devait être opérée de calcification à une épaule. Et nous étions à Chambéry à cette époque-là. Elle souffrait. Le chirurgien lui avait dit ce qu'il allait faire. Et c'est pas une petite calcification. Quelle serait l'ouverture? Elle y en aurait pour 1 an avant de se remettre. Et elle souffrait. Et puis elle a cherché Dieu. Elle a jeûné. Elle a jamais été opérée. Que Dieu soit béni. C'est moi, c'est pas vrai. Dieu soit béni. Dans le jeûne et la prière, nous permettons à Dieu d'agir efficacement en nous, mais il nous rend efficaces. 5 moyens. Alors, l'Église est appelée à porter du fruit. Beaucoup de fruits. Et encore plus de fruits. Surtout dans les temps où nous vivons, tant de ténèbres. Mais plus les ténèbres sont épaisses, plus la moindre étincelle est visible. Que nous soyons cette Église qui porte du fruit à la gloire du Seigneur. Vous savez ce que disent les Chinois? Ils disent, nous sommes comme les bambous. Plus on en coupe, plus il en pousse. plaisent à Dieu, plus les chrétiens seront laissés pour compte, méprisés, persécutés, plus les gens seront sauvés. Est-ce que nous sommes prêts à accepter le défi? C'est pas facile d'être laissé pour compte. C'est pas facile d'être laissé de côté. C'est pas facile de subir les moqueries et les mépris, si vous en pensez. C'est pas facile d'aller jusqu'à la persécution. Mais dans les pays persécutés, c'est là qu'il y a le plus grand nombre de chrétiens. Nous sommes en France. Dans les ADD, c'est-à-dire Assemblées de Dieu. Il n'y a pas que les Assemblées de Dieu qui sont sauvées, hein. Vous avez bien compris? Il n'y a pas que les Assemblées de Dieu qui soient sauvées. Amen. C'est bien, moi aussi je dis Amen. Mais dans les Assemblées de Dieu, nous sommes à peine une cinquantaine de milliers de chrétiens. Déjà en Italie, ils sont plus de 10 fois plus nombreux. Pourtant, on ne dirait pas. Plus de 10 fois. Et dans les pays où il y a la persécution, ils sont encore beaucoup plus nombreux. Parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative que de s'attendre à Dieu, dépendre de Dieu, s'accrocher à Dieu, s'adresser à Dieu, croire Dieu, vivre avec Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à le faire? 5 moyens qu'il nous donne. C'est pas l'Atlantique à traverser, c'est pas le Pacifique à traverser à la nage ou comme on voudra. C'est pas du tout cela. Il nous dit simplement, sois rempli du Saint-Esprit. Aime la parole de Dieu. Prends des moments de prière. Personne ne le sait, mais ton Père qui va dans le secret te le rendra. N'aie pas honte de pleurer devant Dieu. Il voit, il recueille tes larmes. Il agira. Et puis, prends des moments de jeûne et de prière. Oh, il ne s'agit pas de se dire, je vais ressembler à Jésus, moi je vais jeûner 40 jours, pas du tout. Il y en a qui l'ont fait. Dieu soit béni, mais on peut le faire un repas, on peut le faire une journée, parfois on peut le faire plusieurs jours, tout dépend de nos personnes, de nos personnalités, mais c'est prendre le temps pour être avec le Seigneur. Pendant ce temps-là, je ne veux rien savoir de plus que d'être avec Jésus. Est-ce que ce n'est pas dans nos possibilités? Il ne faut rien dépenser, c'est notre désir, c'est notre volonté, c'est notre foi. Et Dieu agira, répondra. Moi, je bénis le Seigneur pour tous mes frères et sœurs présents dans ce lieu ce matin. Je bénis le Seigneur. Et je crois que Dieu a bien des choses encore préparées en avance. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand je dis préparé en avance, c'est préparé en avance, hein? Eh oui, c'est pas à quelle heure est-il? Bon, il est 11h30. Qu'est-ce que je vais préparer pour le frère Michael Fontaine? Non, c'est préparé même avant que tu existes. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que je dispose de 3 minutes encore? Oui, pasteur, tu m'en donnes. Nous étions en vacances à Noël chez une de nos filles qui et son mari qui était pasteur à l'époque à Salon de Provence. Donc, tous les enfants se sont regroupés, les parents, les grands-parents, tout le monde était là. Et puis le dimanche matin, mon gendre Daniel me demande si je peux apporter la parole. Alors je prépare et je parlais sur les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et tout d'un coup, je m'arrête et je regarde Daniel qui était là, assis devant. Je dis, Daniel, tu crois que Dieu nous a préparé des œuvres d'avance pour nous? Il dit oui. Je dis, tu crois qu'il l'aurait préparé aujourd'hui? Il me dit oui. D'avance, hein? Bon, je reprends le fil de ma prédication. L'après-midi, il n'y avait pas de réunion, c'était entre les deux fêtes, jour de Noël et Nouvel An. Et puis, dans la soirée, une de nos filles regagne Marignane, où elle habitait, où elle habite toujours d'ailleurs, et elle me téléphone. Papa, tu te souviens de Doriane? Oui. Doriane, nous l'avions connue dans la région parisienne. Là encore, Colette avait gardé 3 de ses enfants, quelquefois. Elle me dit, elle est hospitalisée à Marseille. C'est très très grave, elle n'a plus pour longtemps. Nous l'avions connue. Et on ne l'avait pas vue depuis 1995. Cela s'est passé en 2004, donc 9 ans après. Je regarde Daniel, je dis, on y va. Oh, lui, il était d'accord. Il est toujours d'accord, Daniel. Pour aller parler de Jésus, il est toujours d'accord. J'ai dit cela à ma femme, elle n'était pas très contente, la belle-mère non plus d'ailleurs, parce qu'ils avaient tout préparé, c'était les fêtes, quoi. Mais nous sommes allés. On arrive à l'hôpital, je ne savais même plus le nom de cette Dorian. On arrive, c'était donc l'hiver, entre Noël et le Nouvel An. Personne à l'accueil, nous montons au premier étage, et là j'étais en train de penser, Dorian, Dorian, Dorian. Et il y avait une dame qui était au distributeur de boissons, qui nous regarde, fait « Vous cherchez quelqu'un, monsieur ?»« Oui, » j'ai répondu sèchement. Elle me dérangeait, cette dame. Elle revient à la charge, quand les femmes veulent quelque chose. Elle dit « Vous cherchez quelqu'un, monsieur ?» Je dis « Oui !» Je pensais, moi, « Dorian, Dorian, Dorian. » « Mais vous cherchez qui, monsieur ?» Elle me dit. C'est pour ça que le Seigneur a employé la parabole de la femme qui importune d'un gigénique. Hein, il connaissait nos esprits tant des hommes que des femmes. Et je lui dis, ben, je cherche une dame, je ne sais plus son nom, elle s'appelle Dorian. Il me fait, vous êtes monsieur Galifou? Ah, j'ai dit oui. Elle me dit, je suis la sœur de Dorian. Je ne savais même pas qu'elle avait une sœur. Elle me dit, ce matin, ma sœur Dorian me disait, je voudrais revoir le frère Galifou. 9 ans que nous ne l'avions pas vu. Parce que nous l'avions aidé dans un temps où elle était vraiment en difficulté. Déménagement, mais quelque chose qui lui est personnel. Nous l'avions aidé. Puis elle avait besoin de parler, de confesser certaines choses pour que Dieu l'aide. 9 ans après, Dieu avait prévu quelque chose. Nous sommes allés la voir avec Daniel. Nous avons prié pour elle. Puis à un moment donné, elle a voulu me parler seule. Et puis, elle m'a dit, monsieur Galifou, est-ce que je vais guérir? Moi, de tout cœur, j'aurais voulu qu'elle guérisse. Seigneur, qu'est-ce que je dois lui dire? Et le Seigneur m'a dit, je vais la reprendre. J'ai dit, Dorian, Dieu va te reprendre. Tu vas passer une excellente nuit alors qu'elle souffrait depuis des semaines où elle était hospitalisée. Tu vas passer une excellente nuit. Tu te réveilleras demain, tu seras reposé. Et en fin de matinée, Dieu va te reprendre. Il y avait sa fille. Comment s'appelle sa fille déjà? Oh, je ne me souviens plus. Les noms. Elle a passé une excellente nuit. Le lendemain, elle s'est réveillée, elle était reposée. Et peu avant midi, elle est partie avec le Seigneur. Sa fille s'est convertie. Sa sœur s'est convertie. Dieu avait prévu cela d'avance, cette visite. Nous, le lendemain, on reprenait la voiture pour revenir à Montauban. Dieu nous a préparé des œuvres d'avance. À chacun. C'est pas qu'un pasteur. C'est à chacun. Il nous a sauvés pour que nous pratiquions les œuvres qu'il nous a préparées d'avance. Est-ce que nous voulons rentrer dans les œuvres de Dieu? Je pourrais parler d'une œuvre préparée d'avance par notre frère qui distribuait des prospectus à Agen. Un jour de mauvais temps. Et il y avait un homme qui avait marqué pas de pub sur sa boîte à lettres. Notre frère était à Chambéry avant, avec son épouse. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Cet homme qui avait marqué cela le voit par un jour de mauvais temps. Il pleuvait, etc. Il faisait pas chaud. Il voit comme ça, il lui pose quelques questions, puis il l'invite à prendre le café. Le frère entre, témoigne. C'était un homme qui avait entendu l'évangile tout jeune et qui avait été baptisé au Maroc. Il avait quel âge à l'époque quand vous l'avez rencontré? 80, pas loin de 90? Pas tant? 85 ans. Entre-temps, il avait abandonné le Seigneur. Mais parce que notre frère est allé, cet homme est revenu. Parce que j'ai eu l'occasion de le visiter. C'est son épouse qui est décédée, ça y est, ça me revient. Dieu avait préparé quelque chose d'avance. Pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous croyez que Dieu veut se servir de chacun de nous? Est-ce que vous croyez que Dieu vous a préparé des œuvres d'avance? Vous le croyez? Vous voudriez les vivre avec le Seigneur? Alors on va prier le Seigneur. s'il vous plaît. Seigneur, nous sommes devant toi.